vous l'avez bien connu. Vous l'avez bien connu, une émission sans contrainte ni personne, vous l'avez bien connu, proposée par Ambroise Perrin.
Épisode numéro 103. 103, sans toi, que ferait le poète sans toi ? Mathilde Leclinche, Enrique Uribe, chers amis, bonjour, vroom vroom, poète, poète. Nous partons aujourd'hui en poésie sur ma mobilette. C'est en vain qu'au Parnasse un téméraire auteur pense de l'art des vers atteindre la hauteur, souvent pour s'amuser les hommes d'équipage, l'arimal, l'arima, l'amiral, l'arima quoi, l'arima rien, et ce rien je vous le donne. Sortez vos lagardes et michards, cherchez vos vieux cahiers de poésie au grenier. Au grenier, mais non! À Strasbourg, on a toute une maison pour la poésie, la maison de la poésie. Bonjour Mathilde Leclinche.
Bonjour Ambroise.
Bonjour Enrique Uribe.
Bonjour Ambroise.
Alors vous êtes les amiraux de la maison de la poésie à Strasbourg, enfin la présidente et puis le presque vice-président. Dites-moi, quand Léo Ferré hurle « Poète, vos papiers », que veut-il dire ?
Disons, c'est une question piège dès le début,
non,
Ambroise.
Pas du tout. Poète, vos papiers. Alors, est-ce que il veut dire que le poète est un potentiel délinquant et qu'il faut le contrôler en lui demandant ses papiers, ou alors bien une injonction signifiant que la vie n'est guère possible sans poésie et que le poète doit se précipiter dans ses cahiers de papier pour les remplir de vers sans rime ?
Peut-être certainement un oiseau insoumis, pour reprendre un vers de Charles Cros. Voici crier les oiseaux insoumis. Oui, je pense qu'on a sans doute dans notre amour de la poésie quelque chose de l'ordre de une envie de liberté.
D'injonction comme ça, poète, vos papiers, écrivez des poésies, on a besoin de vous. Parce qu'il dit, donc Léo Ferré, j'ai bu du Waterman, alors c'est l'encre, hein. J'ai bu du Waterman et j'ai bouffé litré et je repousse du goulot de la syntaxe à faire se pâmer les précieux à l'arrêt. La phrase m'a poussé au ventre comme un axe. Bon, alors tout cela, ça dégage un max. La maison de la poésie, est-ce que c'est un refuge du genre SOS poète battu, SOS femme battue, SOS non ?
Un refuge, c'est un mot intéressant, un concept intéressant. Oui, c'est en tout cas une maison ouverte à accueillir tout le monde, toutes les personnes qui ont envie, besoin de poésie, qui en écrivent ou qui en lisent, qui veulent en écouter. Donc j'aime, oui, l'idée de refuge, mais une maison aussi ouverte à l'extérieur, à l'Alsace, mais aussi à la France, à l'Europe, à l'international.
Alors, ça se passe à la fac, hein, cette maison de la poésie, non ?
Non.
Ah, je croyais que les locaux étaient dans...
Alors on n'a pas de locaux, on est hors les murs. Oui, donc en fait, on va là où on veut bien nous accueillir, en librairie, en médiathèque, pour organiser les événements. Plusieurs d'entre nous, il se trouve que plusieurs d'entre nous au conseil d'administration sont enseignants à l'université, donc le lien est là, mais non, c'est surtout pas une maison universitaire.
Mais alors, c'est une maison sans toi ?
C'est une maison avec nous, mais sans toi.
Mais il n'y a pas d'adresse, alors, pour la maison de la poésie ?
Il n'y a pas d'adresse physique, non.
C'est pas mal, ça. C'est pour les sans-papiers, alors.
Elle est pour tous.
Pour être vos papiers. Non, c'est pour les sans-papiers ou non ?
Non. C'est pour...
Est-ce qu'ils viennent, les sans-papiers ?
C'est pour
Ils ont
tout...
peut-être besoin d'autre chose que de la poésie. Ils ont besoin de manger, de dormir...
Est-ce que la poésie peut remplacer ces choses essentielles ?
Les remplacer, je ne sais pas, mais je pense que c'est un besoin essentiel, le besoin et le droit à l'émerveillement, parce que ça parle de l'âme humaine, d'une aspiration de l'âme humaine. Donc bien sûr, il y a des choses plus urgentes dont le corps humain a besoin pour vivre, mais l'esprit et le cœur humain a besoin de poésie, je crois.
Voilà, alors Enrique, vous êtes prof.
Je rajoute, c'est une maison sans toit, non, avec un toit, mais avec les quatre portes ouvertes, comme la tente Bran.
Sans toit ni loi, donc.
Non, il y a un toit, mais les portes sont ouvertes.
Voilà. Et il n'y a que des portes, il y a des fenêtres aussi, parce qu'il y a une cheminée par laquelle on s'échappe.
C'est l'hospitalité, c'est la métaphore d'Abraham de l'hospitalité. Et on accueille des gens de tous les horizons et c'est l'idée de départ,
oui.
L'accueil.
Oui, mais alors est-ce qu'en 2025, la poésie, ça ne fait pas, je ne veux pas dire peur, mais on se dit c'est quand même un vieux truc ringard ça. Moi je me souviens des petits Segers et tout, poésie... Enfin, c'est le truc où on s'embête à l'école, il faut apprendre du Baudelaire par cœur et tout. Après, quand on le relit, c'est génial, bien sûr. Mais quand même, c'est pas un vieux truc, la poésie ?
Alors, je dirais que non, et je dirais que dans les derniers mois et dernières années, il y a plusieurs maisons de la poésie qui se sont ouvertes en France, à Bordeaux en 2022, à Montreuil en 2024, l'année dernière, donc ici à Bordeaux, mais aussi à Brest. Il y a une sorte de regain pour la poésie qui est très, très intéressant. C'est vrai qu'on en a parfois une image un peu contrainte par l'école ou par le cadre scolaire, et que peut-être il faut avoir la curiosité d'en lire à côté de l'école. En tout cas à tous les âges, pour sans doute avoir un choc peut-être à la lecture d'un poème qui permet de vraiment d'être une porte sur la poésie ensuite. Mais Enrique, où es-tu ?
Oui, l'idée c'est aussi que la poésie n'est pas que l'écrit. Une maison de la poésie en elle-même, c'est un acte poétique. Et donc l'idée, c'est de poétiser le monde. Et pas qu'on reste dans la prose, dans les nouvelles, dans cette idée que tout est marchandise, que tout est quantifiable. Donc la poésie, c'est aussi un acte, c'est un faire. C'est pas seulement...
Et ça doit être original.
Ça doit être un geste qui va enchanter, qui va nous rappeler la beauté, qui va...
Et nous surprendre.
Et nous dire...
J'essaye de vous faire dire que...
La vulnérabilité de la vie.
Ben justement.
La fragilité.
Donald Trump, c'est un grand poète.
Mais
alors.
Justement.
Oui, tout à fait. La vulnérabilité, la fragilité, l'émotion humaine, en fait, l'humanité aussi par rapport à un débat très actuel sur l'intelligence artificielle, en fait aussi, qu'est-ce qui fait notre spécificité humaine.
Je reprends mon astuce là. Dans un siècle ou deux, on dira que Donald Trump, finalement, on est passé à côté complètement en disant il est fou, il mène le monde à la catastrophe. En fait, c'est de la poésie qu'il fait à la Maison-Blanche. C'est de l'entrisme. Il a réussi à rentrer dans le pouvoir mondial pour nous faire des poèmes sur Zelensky, par exemple. Ou non, ça ne vous fait pas rire.
C'est pas l'étonnement. C'est pas... Donald Trump, il n'est pas dans la sensibilité, non. Dans la vulnérabilité, dans le...
Oui, mais on peut être poète sans le savoir.
Il est dans la prose.
Comme Monsieur Jourdain, qui faisait de la prose sans le savoir. Non.
Écoutez, c'est pas en tout cas, c'est pas une de mes premières références bon, voilà. Poétiques
et littéraires. Donc, vous disiez que.
Mais il y avait Simone Veil, la philosophe, elle répondait très bien à ce que tu dis sur Donald Trump, parce que Donald Trump, c'est la force, la puissance. Donc, c'est tout le contraire de la poésie. La poésie, c'est quelque chose qui est éphémère, qui est sensible, qui va. C'est disparaître. Donc nous, pour une maison de la poésie, c'est accueillir justement cette chose qui est si presque en train de mourir.
Oui, alors...
La parole.
La poésie, c'est dire et être écouté, hein, c'est ce que vous venez de me dire.
Surtout écouter.
Mais c'est aussi écrire et être lu. Mais est-ce qu'on peut être un poète juste pour soi ?
C'est une bonne question.
Si on n'est pas lu, on remplit des pages dans son cahier à la maison. Et est-ce que c'est aussi être poète, mais on n'a pas envie d'être lu par les autres ? Contrairement à ce que disait... Cocteau, il disait, alors je répète souvent cette phrase, les livres ne sont pas faits pour être lus, les livres sont faits pour être là. Est-ce qu'on peut faire de la poésie comme ça, juste après avoir fait la vaisselle
Ça commence par là, déjà. C'est vrai que le geste de le partager, de le montrer aux autres, il est parfois délicat. C'est en fait peut-être aussi être poète, une attitude déjà au monde, une ouverture, une qualité d'observation, et effectivement une sensibilité en fait au monde. Donc c'est d'abord être poète peut-être.
Être poète. On est, alors il faudrait demander à Maxime Le Forestier, est-ce qu'on est poète? Vous savez, la chanson « On est toujours quelque part », on est toujours peut-être poète. Parce que mes souvenirs d'enfance, mais j'ai un peu comme ça cherché un peu, les gamins, mais même déjà à l'école maternelle, la première chose qu'ils apprennent par cœur, et il faut répéter, c'est une poésie. Et puis quand on dit par cœur, c'est assez intéressant comme expression, c'est-à-dire ne pas avoir de trou, sinon la maîtresse va vous souffler le mot qui suit. Il faut s'en souvenir comme ça, dans la tête, et non pas avec le cœur. Il a dit non avec la tête, il a dit oui avec le cœur, c'est Jacques Prévert, je crois. Oui. Hein?
En l'occurrence, moi je ne suis pas contre l'apprentissage par cœur de poèmes. En fait, il y a dans la poésie ce rythme qui, normalement, justement, est véhicule d'une possibilité de mémorisation des textes.
Même si le texte ne veut rien dire, l'amiral la rime à quoi, la rime à rien? Jacques Prévert, il a même son nom sur des écoles.
Bien sûr, même tout à fait. Oui.
Alors, à la Maison de la Poésie de Strasbourg, dont vous êtes la présidente, est-ce que vous faites des soirées de lecture de poésie, comme autrefois on faisait des soirées de projection de diapositives? Alors, je m'adresse aux auditeurs un petit peu âgés, les soirées diapo, où on s'endormait et tout. Alors, vous faites des soirées poésie?
Oui, alors en fait, des rencontres poétiques. Donc, il faut quand même préciser, Ambroise, qu'on vient de naître. C'est une nouvelle maison. On a commencé en fin d'année dernière. Et on invite des poètes à venir discuter et lire des extraits de leur recueil. On a accueilli en octobre dernier une poétesse québécoise dont le recueil, vous parliez tout à l'heure de est-ce que la poésie est morte ou est-ce que la poésie est ringarde. Son recueil, en l'occurrence au Québec, en est à la 15e réimpression. Donc, on a là un véritable succès, et c'est un recueil très très touchant, et elle est venue en parler à Strasbourg en octobre dernier à la librairie Quai des Brumes, et on va avoir plusieurs différents formats, donc ces rencontres poétiques, on a également des conférences poétiques, la première d'ailleurs j'invite tous les auditeurs à venir, sera la semaine prochaine le 28 février à la BNU.
Nous sommes diffusés le 4 mars, merci.
Et bien la suivante, alors les gens pourront venir le 9 avril. Et donc là, on va parler de poètes plus classiques.
Non, nous sommes diffusés le 25 février. Voilà, comme ça, les
donc
auditeurs.
C'est parfait, les auditeurs écoutent et viennent le 28.
À la fabrication de cette émission. Exactement. Mais alors, Mathilde Leclinche, quand on vous voit, on vous aime. Et quand on vous aime, où vous voit-on? Alors, ça, c'est pas de la drague à la radio, c'est Boy Meets Girl, le célèbre film. Et la poésie est immortelle et éternelle. Mais nous sommes quand même en 2025, vous avez la poétesse qui vient de Québec et tout. Comment est-ce qu'on fait pour vous contacter?
Tout à
quand
fait.
Quand on vous voit.
Oh ben, on est sur les réseaux sociaux.
Vous aime-t-on? Vous n'êtes pas contre les réseaux sociaux?
Non.
Je croyais que la poésie, c'était le papier.
Non, mais à l'heure actuelle, non. Voilà, ne serait-ce que pour de nécessité de communication de nos événements, on a besoin d'avoir des réseaux sociaux. Donc, vous pouvez nous trouver sur Facebook, Maison de la Poésie Strasbourg, sur Instagram maintenant. Et puis sinon, voilà, il y a une adresse générale
pique
de contact.
Pique et collégramme, hein. Bien sûr. Voilà. Mais alors, Henrique, est-ce que vous incitez vos étudiants, hein, puisque vous êtes prof, à lire de la poésie en dehors de votre... Vous êtes prof de quoi ?
Je suis prof des langues et civilisations hispaniques.
Oui.
Alors moi, je fais du prosélytisme poétique dans mes cours.
Pour Garcia Lorca, par exemple.
Pour les gestes poétiques. Donc voilà, mes étudiants, ils sont habitués à fréquenter des poètes de tous les âges.
Voilà. Alors, est-ce que la Maison de la Poésie, qui n'a pas d'adresse, mais qu'on peut quand même trouver, si l'on est un poète motivé, est-ce qu'elle va éditer des livres de poésie ?
Alors ça, c'est peut-être un projet à plus long terme. Pour l'instant, j'en profite d'ailleurs pour dire
vous
que...
Vous prenez l'accent alsacien pour le dire, hein, ça, j'ai bien vu. Yo, hop là, écoutez, un jour, on pourra peut-être éditer vos poèmes.
Je suis strasbourgeoise d'adoption.
Oui, mais il y a tellement de gens qui écrivent des poèmes et tout, puis alors
oui,
qu'ils veulent éditer, plus
bien sûr.
À compte d'auteur, distribue gratuitement à Noël, à la famille, et le Noël suivant s'aperçoit qu'ils ne l'ont même pas lu.
Oui, mais je rappelle que nous sommes une association, et donc pour l'instant, nous vivons grâce aux adhésions des adhérents, et nous sommes à la recherche de subventions, de mécénat, pour nous aider à développer effectivement ces activités. Donc,
mais c'est une idée d'éditer des livres.
Si nous avons un jour la possibilité, pourquoi pas. Mais pour l'instant, c'est vrai que c'est pas tout de suite.
Le problème n'étant pas celui de l'édition, mais de la diffusion et de la distribution, j'imagine.
Et de la lecture, on encourage surtout aussi à lire. On dit que parfois il y a plus de gens qui écrivent de la poésie que de gens qui en lisent.
Oui, oui.
On est aussi capitale, vous savez, mondiale du livre cette année, donc ça résonne particulièrement. On incite vraiment les gens à avoir la curiosité de feuilleter un recueil de poésie. Encore une fois, parfois les gens ne se sentent pas autorisés ou ont presque peur d'ouvrir un recueil de poésie contemporaine ou classique. Non, il faut avoir cette curiosité. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que Camille Redman-Prudhon, la poète québécoise qu'on a reçue en octobre, c'est parce que, par hasard, j'avais ouvert son recueil quelques mois plus tôt et que j'avais eu un coup de cœur. Donc il faut avoir cette curiosité, il faut essayer d'en lire.
Mais à Strasbourg aussi, il y a une opération qui s'appelle le Printemps des Poètes.
Oui,
c'est
une opération nationale, en effet.
Ah, c'est national.
Oui, le Printemps des Poètes.
Parce que je sais que c'est l'Académie Rhénane qui chapeaute tout ça à Strasbourg, mais c'est très intéressant. Hein. Alors, c'est des gens qui se succèdent les uns après les autres, donc il y a la famille et les copains qui sont dans la salle, ça remplit.
Oui, le Printemps des Poètes, c'est effectivement cette manifestation en mars nationale pour promouvoir la poésie. Donc, il y a des événements partout en France. Effectivement, l'Académie Rhénane va en organiser à Strasbourg, mais nous également, on va proposer une rencontre le 22 mars avec la poète Jennifer Groussela à la librairie L'Indépendante au Neudorf. Et ce sont, une opération qui existe depuis de longues années, le Printemps des Poètes. Oui.
Est-ce que la poésie, c'est quand même pour les bons élèves ou les gens qui sont un peu cultivés ?
Non, justement, moi, comme vous parliez tout à l'heure de l'école, du cadre scolaire, aussi peut-être le trop d'intellectualisme aussi peut porter préjudice à la poésie. La poésie, c'est pour tout le monde. Dans les tripes. C'est absolument pas réservé à une élite et
C'est pour les cancres aussi.
Oui.
Voilà, c'est pour ça que j'ai cité Jacques Prévert avant. Alors j'imagine toute la classe debout en train de réciter ensemble à voix haute donc ce poème de Jacques Prévert, Le cancre, c'est dans, je crois, le recueil qui s'appelle Parole,
oui,
qui est vraiment la Bible, je ne sais pas moi, en troisième, en seconde.
Et
il dit non avec la tête, mais il dit oui avec le cœur, il dit oui à ceux qu'il aime. Alors, est-ce que la poésie, ce sont toujours des histoires d'amour ?
La poésie, c'est un besoin de l'âme, c'est une prière laïque, donc ça touche à tout, à la beauté.
Oui, oui, mais est-ce que c'est pas parce qu'on aime quelqu'un, on va lui écrire un poème, vous savez, le fameux deux choses, toi et la rose pour un jour,
c'est parce qu'on est relié
et toi pour toujours, à sa maman.
C'est parce qu'on est relié, et l'amour, c'est une liaison, une relation, donc la poésie nous relie.
Oui, alors je suis tout à fait d'accord avec Enrique. Il y a un très très beau vers de la poétesse Wisława Szymborska qui a écrit « Écoute, comme ton cœur bat vite dans ma poitrine ». Et c'est ce lien entre les humains, ce fil invisible, cet écho entre nous tous qui est, oui, peut-être une des définitions de la poésie.
Apollinaire, lorsqu'il était dans les tranchées, là, en 14-18, il écrivait des poèmes d'amour, mais c'était des poèmes super porno, enfin, érotique, soyons.
C'est la pulsion de vie aussi, quand on est dans une telle...
entre les humains et les choses, hein, quand on lit Georges Perec, cette attention pour les choses, c'est la poésie.
Oui. Alors, si la poésie... ne sauve pas le monde, est-ce qu'elle peut sauver simplement le poète? Est-ce que c'est une thérapie que de faire de la poésie?
En tout cas, ça peut faire du bien à la fois ou d'en écrire ou d'en lire. Par exemple, ne serait-ce que le week-end dernier où j'étais un petit peu mélancolique, j'ai eu envie de retourner à des poèmes d'un recueil d'une poétesse sud-africaine, Ingrid Jonker. Et oui, étonnamment, de lire ces textes qui sont beaux, ça m'a fait du bien. Donc il y a quelque chose de l'ordre de la thérapie. Le beau est aussi le bien et le bon.
D'accord. Est-ce que la poésie, c'est vraiment un genre à part dans la littérature? Ou est-ce que finalement, est-ce que Proust est un poète?
Pour moi, la poésie n'est pas de la littérature. Pour moi, la poésie est plutôt quelque chose qui a à faire avec la prière. Mais ça, c'est ma...
Ah oui, c'est quelque chose de mystique quand même.
Pour moi,
c'est...
Oui.
Oui. Oui, mais alors si je vous dis, les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches ou archi-sèches? Est-ce que c'est de la poésie?
C'est des jeux poétiques à Georges Perec, très intellectuel, phonétiquement, c'est beau.
Oui.
Donc il y a une...
Oui, mais on ne va pas atteindre le bon Dieu avec les chaussettes de l'archiduchesse. Hein, je ne sais pas, c'est pas mystique. Ça.
C'est-à-dire que c'est un jeu de langage. Ouais.
Et c'est bien. Il y a de l'humour, ça fait rire. La poésie, va être quelque chose qui va créer une liaison, une relation, un rapport. Et pour moi, ça peut être l'humour, ça peut être l'intellect, ça peut être les sentiments, ça peut être la beauté, et donc préoccupation esthétique, éthique. Mais ça ne reste pas... Pour moi, un genre littéraire, mais c'est un
assez
point de
part.
Vue très...
Donc,
très
vous ne le mettez
personnel.
Pas avec le cinéma, le théâtre, les romans noirs, les polars, tout ça, non, c'est à part.
Pour moi, c'est un peu à part, mais c'est
Est-ce
personnel.
Qu'un poète pourrait réaliser un film?
Il y a eu des poètes, là,
oui.
Non
Oui, oui c'est pour ça que je pose la question. Prévert, il a travaillé sur des scénarios de films et tout. Oui.
Tarkovski a mis aussi en film les poèmes de son père. Et c'est parmi les plus beaux films de la...
C'est un hommage, c'est pas vraiment...
Oui, mais ça s'inscrit très bien dans le... Ces films sont presque des poèmes, des longs poèmes.
Oui, disons que pour moi, l'acte poétique est gratuit. Et n'a pas une... C'est-à-dire, le but de la poésie n'est pas extrinsèque, mais intrinsèque à lui-même. La poésie, elle se suffit elle-même. Elle n'a pas besoin de penser à faire un film, un livre, business. Non, la poésie, elle se suffit elle-même.
Bon, alors, on va vous... Mathilde Leclin chez Enrique Uribe, merci. Hein, donc, on va vous retrouver, on ne sait pas où, à la Maison de la Poésie. Si 606 suissos sus 606 saucisses sans sauce, ça se saura.
Ça se saura.
Voilà. Eh bien, écoutez, c'était l'épisode numéro 103 de « Vous l'avez bien connu ». Alors, aujourd'hui... 103 sans toi, que ferait le poète sans toi, avec Mathilde Leclinche et Enrique Uribe. Et pour conclure, je vais vous lire une petite poésie qui a été écrite à l'école maternelle. Qui a du caca kaki collé au cucu, collé au cucu? Qui a du caca kaki collé au cucu, collé au cucu, jusqu'au kiki? Voilà, c'était votre petit bout de chou qui le récite. Et comme vous dites, comme c'est votre enfant, vous dites « Oh, comme c'est mignon !» Voilà, parce que quand même, un peu caca boudin, c'est quand même toujours rigolo, non,
oui,
avec
oui,
les enfants.
À 5 ans, c'est rigolo, mais à 80 ans, comme trompe, c'est plus rigolo.
C'est pas rigolo. Bon, alors, il y a des distinctions avec l'âge. Donc la poésie, il ne faut pas trop vieillir. Ou est-ce qu'on peut être poète à 100 ans, en 5 secondes?
Oui, on peut être poète à 4 ans. Il y a des très jolis, le Printemps des Poètes organise aussi une opération pour diffuser des poèmes d'enfants. Il y a des très beaux vers, parce que les enfants ont une imagination qui n'a pas de limite. Hein, et c'est très intéressant pour la poésie.
L'imagination au pouvoir. La semaine prochaine, on sera amoureux d'une cigarette qui a la rondeur d'un sein qu'on mord ou qu'on tête, avec Jacques Higelin et Claire Pedotti. Vous l'avez bien connu sur Radio Judaïca Strasbourg, tous les mardis à 11h30 et le dimanche à midi, à la technique Thomas Marinelli et mon nom... Framboise sans pépins, c'est Ambroise Perrin. Two fellows meet, like you and I. No connection between